Première partie. Lorsque le professeur se décida à partir au renseignement, la nuit était tombée. Les lumières de la ferme toute proche se distinguaient à peine dans le brouillard, et, malgré son inquiétude, le professeur se félicita de quitter le pays dès le lendemain, car il apparaissait que, sitôt la fin du mois d'août, on y vivait dans la pluie et la brume constante, ce qu'il avait ignoré jusqu'alors, ce dont cet après-midi lui donnait la conscience soudaine. Demeurer ici à l'année, je ne le pourrais certainement pas, songea-t-il avec dégoût, en s'engageant dans le chemin menant à la ferme, et, du bout de son pied, tâtant le sol avant chaque pas, tant la clarté de la lune était faible. Il lui semblait que le froid était arrivé d'un coup, juste après le déjeuner, et au moment où le professeur et sa femme convenaient tranquillement de rentrer le lendemain à la capitale, le 2 septembre, un peu plus tard que d'habitude. Brutalement, ils avaient frissonné tous deux, et le professeur avait lancé quelques doctes remarques sur les changements de saison. Ne s'était-il pas réjoui alors un peu trop complaisamment de leur départ, regrettant simplement que le beau temps ne les eût pas accompagnés une journée encore? Certes, ils étaient indifférents au climat d'ici, à tout ce qui concernait le pays dès lors que, après la longue période toujours souriante et chaude des vacances, le 31 août, ils s'en étaient allés. Et voilà qu'il bruinait, et le professeur n'avait rien pour se couvrir. Transi, il entra dans la cour de la ferme, cogna à la porte. On mit un certain temps à ouvrir, et il comprit qu'on regardait par une fenêtre du haut qui était là, qu'on avait peut-être du mal à voir distinctement son visage, et que peut-être on attendait avant de descendre de le reconnaître avec certitude. Gêné, il recula d'un pas, redressa la tête. Son front glacé devint douloureux. Il faisait encore si doux hier, se répétait-il machinalement, déconcerté et très abattu soudain. Enfin, la maîtresse des lieux entrebâilla la porte. « Je suis Hermann, s'écria-t-il, le professeur, votre voisin. »«
Oui, oui. »
Elle ouvrit en grand, amène, souriante, sans penser cependant à le prier d'entrer. C'était une robuste jeune femme aux joues très rouges. « Avez-vous vu ma femme et notre fils ?» demanda-t-il alors. Et il expliqua que Rose et l'enfant, l'ayant quitté 3 heures auparavant pour venir chercher des œufs à la ferme, il avait supposé, comme il n'était pas encore revenu, que Rose s'était attardée à bavarder ou que peut-être le petit avait insisté pour dire au revoir aux bêtes. Mais il était temps de rentrer à présent et lui-même, Hermann, le professeur, n'avait pas laissé de s'inquiéter durant tout ce temps, s'indignant tout de même un peu que Rose eût négligé de le rassurer par un coup de téléphone. Il se montait tout en parlant. « Je vous demande de les prévenir que je suis là, » dit-il d'une voix mécontente. Il avança son pied entre les jambes fermement écartées de la femme, désireux de protéger au moins sa tête du crachin. Mais il le retira aussitôt, et même, confus, esquissa un pas en arrière, car, loin de comprendre qu'il souhaitait entrer et de s'effacer poliment pour lui céder le passage, elle n'avait pas bougé d'un pouce, toujours affable cependant, le visage légèrement incliné vers lui pour mieux l'écouter. Un corsage imprimé de fleurs de pommier, comme en portaient dans la région, savait-il incidemment, les femmes mariées, se croisait sur sa poitrine, comprimant un peu celle-ci, pour se nouer sur le côté par deux lacets de couleurs différentes auxquels on pouvait connaître, quand on était au fait de ses coutumes, en quelle année la femme avait pris mari. L'écarlate de ses joues se retrouvait exactement au cœur de chaque petite fleur. « Ne voit-elle pas que je suis trempé ?» se dit Hermann, à la fois tout ébahi et pris d'une sorte d'engourdissement qui anéantissait sa colère. Comme elle ne lui répondait, ni ne faisait le moindre geste, le fixant pourtant d'un regard étrangement amical, il répéta sa demande qu'elle alla chercher Rose et le petit, en accentuant soigneusement chaque mot. Et il songeait avec lassitude, impatient du lendemain qu'il les verrait regagner tous trois la capitale. « Ah, je ne comprends rien à ces gens-là !» Elle parut surprise et émit un petit bruit de gorge. Ses bras se soulevèrent vaguement en signe d'impuissance, des bras dodus et très roses, dont la chair serrée par les manches courtes du corsage saillait en bourrelet juste au-dessus du coude. Personne n'est venu, dit-elle enfin. Aujourd'hui, nous n'avons vu que le garde-champêtre.
C'est impossible, s'écria Hermann.
Toute son exaspération lui revint, excité par une angoisse telle qu'il n'en avait jamais ressentie. Il agita son index sous le menton de la fermière.
« Vous m'affirmez que personne n'est venu, puis tout aussitôt que le garde-champêtre est passé. C'est incohérent. À ce compte-là, pourquoi n'auriez-vous pas vu aussi ma femme et mon fils, puisqu'ils m'ont dit à moi qu'ils s'en allaient chercher des œufs ?»
Elle continuait de sourire, étonnée, tranquille. Il sembla au professeur qu'elle renonçait à l'entendre, mais tenait à manifester une inaltérable bonne volonté, en vertu peut-être de ce vieux devoir de courtoisie envers les visiteurs, indifférent à toute offense, qu'on respectait traditionnellement dans cette campagne, quoi qu'on éprouvât au fond de soi. L'anxiété lui fit perdre ses esprits. Et, au lieu de s'en retourner rapidement pour tenter d'apprendre au plus vite où se trouvaient Rose et le garçonnet, Hermann ne pensa qu'à entrer, en bousculant la femme au besoin, pour s'asseoir quelques instants, songeait-il, dans la cuisine, auprès du poêle, sécher ses vêtements, puis tâcher d'interroger posément cette paysanne qui finirait bien par reconnaître qu'il était impossible qu'elle n'eût pas vu cet après-midi Rose et l'enfant, si Hermann lui démontrait point par point, comme il faisait aux élèves à la tête dure, que sa première assertion ne tenait pas debout. « Laissez-moi vous expliquer, insista-t-il d'une voix nerveuse. Je vous assure que Rose est venue. Enfin, où voulez-vous qu'elle soit allée par un temps pareil ?»
« Il ne fait pas chaud, » acquiesça la femme. Et elle ne cessait de lui sourire et de pencher délicatement son front vers lui dès qu'il prenait la parole, dans un mouvement d'exquise urbanité qui déconcertait le professeur. Ne se montrait-il pas, lui, quelque dignité qu'il tint à garder, d'une irrévérence désolante? Et n'allait-on pas au village bâtir sa réputation sur ce que cette femme rapporterait certainement de leur entretien? Depuis 10 ans que Rose et lui passaient les vacances d'été dans cette région reculée, il avait mis un point d'honneur à se conduire avec une correction un peu haute qu'il pensait seul indiquée pour des habitants de la capitale, soucieux de témoigner de leur qualité mais répugnant à en faire ostentation. Et voilà que malgré lui, grisé d'inquiétude, il allait passer pour un goujat aux yeux de cette femme et de ses semblables, aux manières si curieusement raffinées.
« Excusez-moi, dit-il, c'est que, voyez-vous, je ne vois vraiment pas où ma femme... »«
Oui, bien sûr. Le temps change si brutalement par chez nous. Il faut le savoir. »
Comprenant qu'il prenait congé, elle sourit plus largement, s'inclina assez bas et même avança sur le seuil jusqu'à se mouiller un peu, pour lui indiquer, d'un geste gracieux, la grille, bien inutilement puisqu'Hermann l'avait franchie pour entrer dans la cour, mais poussant ainsi jusqu'à l'extrême la politesse et l'aisance. Il s'inclina comme elle l'avait fait, conscient de sa gaucherie, et la pluie tomba sur sa nuque, glissa sur son échine. Grelottant, il pivota sur ses talons et marcha lentement jusqu'au portail. Derrière lui, la femme fermait sa porte, et toute lumière avait déjà disparu au rez-de-chaussée, ce qu'il ne put s'empêcher de juger discourtois. Sans doute l'avait-il suffisamment ennuyée pour qu'elle eût trouvé assez bon de limiter sa grande civilité à sa mine et à ses gestes lorsqu'il la regardait, et peut-être même le code des façons à observer envers les étrangers, pour rigoureusement aimable qu'il obligeât à se montrer en leur présence, ne stipulait-il pas qu'on dût encore leur rendre service quand ils avaient tourné le dos? Hermann se mit à courir dans le chemin. Affolé, il constata de loin que nulle lumière ne brillait chez lui, ce qui signifiait que Rose n'était pas rentrée. Aussi obliqua-t-il immédiatement en direction du village, sans cesser de courir, soufflant avec bruit et jetant des sortes de petits cris et exclamations involontaires.
« Enfin, par un temps pareil » hoquetait-il, paniqué. « Est-ce que ce n'est pas singulier? Effrayant! Et le petit bonhomme, par ce froid !»
Et qu'il fit soudain une température hivernale, achevait de le terrifier, en le persuadant qu'ayant attendu une journée de trop pour partir et modifier ainsi une habitude de 10 ans, ayant laissé venir à eux ici même un mois de septembre qu'il ne leur avait jamais été donné de voir qu'à Paris, Rose et lui
s'était exposé à des perturbations inconnues, d'une nature à laquelle, peut-être, il n'était pas de taille à résister. Car que savait-il de l'automne dans cette région, et des mœurs de ses habitants dès lors que les étrangers étaient censés avoir quitté les lieux? En vérité, l'été fini, ils en ignoraient tout.
« Nous méconnaissons les dangers de la campagne, » songeait Hermann, haletant.
« La pluie, le vent par les chemins creux, ces gens frustes qui, peut-être, passés le 31 août, n'entendent pas nous voir traîner par chez eux. Quel manque de clairvoyance, de doigté !»
L'idée ne lui traversa pas l'esprit que Rose pouvait se trouver dans l'une des nombreuses boutiques du village. Tant il ressemblait peu à sa femme de muser ainsi des heures durant chez les commerçants. Par ailleurs, ni Rose, ni Hermann, ni même le petit garçon, n'avaient au village d'amis à qui rendre visite. Et il n'y connaissait personne chez qui Hermann eût pu s'arrêter pour demander si l'on n'avait pas vu passer Rose. Quoique tous trois ensemble, chaque jour, pendant l'été, descendissent au bourg effectuer quelques courses et que tout le monde les y connut de vue. Mais aller quêter, alarmer, des nouvelles de Rose chez l'un ou chez l'autre, Hermann sentait bien qu'il ne pouvait se le permettre, qu'il y aurait là comme une indécente incongruité, voire une grave transgression des règles de conduite en vigueur, dont cependant il ignorait la lettre, s'il commençait à en percevoir l'esprit. Il cessa de courir peu avant d'entrer au village, et malgré ses jambes tremblantes, son visage ruisselant, tâcha de se donner une démarche dégagée. « On va se demander pourquoi je n'ai pas de parapluie, » se dit-il avec gêne. Il tourna trois fois sur la place déserte, mains dans les poches, et ses épaules furent prises soudain de véritables convulsions. Il fonça dans la rue principale, en direction de la gendarmerie. Bien qu'il fût certain de ne pas y voir Rose, il ne put résister à la tentation de jeter un coup d'œil dans chaque boutique qu'il dépassait, et il lui sembla que les commerçants, oisifs à cette heure tardive, le suivaient eux-mêmes du regard à travers la vitrine, avec une expression inexplicablement sévère. Était-ce, se demanda Hermann, parce qu'il s'étonnait de le rencontrer encore au pays un 1er septembre, sous la pluie, en chemise et dégoûtant, et déjà jugeait suspect un tel comportement? Peut-être n'aimait-on pas ici que les étrangers fissent connaissance de l'automne, qui en quelque sorte ne les regardait pas? Et considérait-on comme indiscrète cette immixtion dans la mystérieuse existence de l'arrière-saison? Hermann fut ému alors, l'espace d'une seconde, et toute anxiété provisoirement oubliée, de se trouver là, au village, à la saison ignorée de ses pareils qui avaient regagné maintenant les appartements parisiens, et, comme Hermann auparavant, se figurait vaguement que la campagne qu'il venait de déserter entrait en hibernation jusqu'à leur retour l'été suivant, toute confite, peut-être, dans une perpétuelle douceur verdoyante. « S'il savait, » pensa Hermann avec une légère fierté, « que dès le premier, nous avons la pluie toute la journée et qu'il fait alors ce froid inconnu d'eux là-bas,
je vais en surprendre plus d'un. Tiens !»
Il remarqua pour la première fois que la charcutière, la coiffeuse et la boulangère portaient toutes trois le corsage aux fleurs de pommier à cœur pourpre qu'il avait vu à sa voisine de la ferme, qu'il écrasait pareillement leur poitrine, tant elle le nouait serré de ses cordons multicolores à la signification précise, ce qui leur donnait, comprit Hermann, cet air compassé, rigide un peu, et cette silhouette droite où seul le cou semblait se mouvoir souplement, ployant la tête vers l'interlocuteur, comme l'avait fait si tendrement, pour témoigner de son attention, la fermière. Dans la lumière crue et blanche des boutiques, le cœur rougeoyant de chaque petite fleur semait de points ensanglantés le buste immobile des commerçantes derrière la caisse, qui avançaient simplement le front pour mieux observer Hermann de leurs yeux autoritaires et froids. Elle lui souriait lorsque Hermann les dévisageait, mais des lèvres seules, d'une manière presque mondaine, en découvrant leurs dents avec excès. La tête alors fléchissait dans une ébauche de révérence, le regard s'abaissait et fuyait, les taches sanguines du corsage ondoyaient sous l'effet de ce discret mouvement. Mal à l'aise, Hermann cessa de regarder à travers les vitrines. Il courut jusqu'à la gendarmerie, tout au bout de la grande rue, là où le village finissait avec les rangs de réverbères et d'où partait la route nationale pour Paris. Le bâtiment était obscur. Il poussa la porte cependant et aussitôt la lumière jaillit dans le bureau où il entrait,
l'éblouissant. Il cligna des yeux, puis soulagé s'écria « Ah ! Il y a quelqu'un !» Et son appréhension trouva enfin quelque répit. Derrière l'unique table de la pièce, un gendarme, assis sur une chaise, faisait aller et venir son stylo d'une main à l'autre. Il avait allumé la lampe dès que la porte s'était ouverte, mais il ne sembla pas à Hermann qu'il sortait d'un somme. Il avait l'œil vif, tranquille, vigilant. Hermann s'approcha aussitôt du gros poil qui ronronnait dans un coin, lui présenta son dos glacé et laissa fuser un « Oh !» de bien-être presque douloureux. Il eut l'impression que le regard du gendarme revenait fréquemment sur ses souliers, de cuir fin, orangé, peu fait pour les chemins. « Je viens pour une affaire grave, » commença-t-il. « Demain, le bureau est fermé maintenant. » Bien qu'il ne sourit pas, le visage du gendarme était empreint d'une expression de courtoisie extrême et suave, qui, encore une fois, déconcertait Hermann. Il crut pouvoir espérer qu'une telle expression ne pouvait que signifier qu'on se mettrait en frais pour l'obliger. Et c'était comme si, malgré les premiers mots prononcés, le gendarme s'était écrié « Je suis votre serviteur !» Encouragé, Hermann feignit de n'avoir pas entendu. Il expliqua en détail comment Rose et leur garçon de 8 ans avaient disparu, qu'ils devaient tous trois rentrer le lendemain, et il insista, un peu absurdement à son propre avis, sur cette circonstance particulière qu'il n'avait jamais, les années précédentes, tardé autant pour regagner Paris. Il pria le gendarme de prendre le signalement de Rose et du petit, et son inquiétude croissait de nouveau à mesure qu'il parlait, jusqu'à ce que, épuisé, il sentit sa voix se fêler, son estomac durcir. « Comprenez bien, » répéta-t-il, sachant pourtant qu'il en avait assez dit. « C'est la première fois que je vois l'automne ici. La pluie, ce froid perçant. Nous étions toujours repartis à ce moment-ci, et de ce qu'il se passe ici après, nous ne savions rien. » Le gendarme l'écoutait sans bouger, sans faire mine de vouloir prendre des notes. Un peu tendu vers Hermann, plein de tact et de distinction dans tous les détails de sa contenance. Un long silence se fit après le discours d'Hermann, qui, lassé, frottait ses mains dans son dos tout près du poêle brûlant. Enfin, le gendarme haussa délicatement les sourcils, comme s'il eût attendu tout ce temps avant de répondre pour être bien sûr que son hôte en avait terminé et ne pas risquer ainsi de couper le fil de son raisonnement. C'était un tout jeune homme, aux cheveux pâles, de cette vague couleur jaune comparable à rien qui existât dans la nature. Typique, se rappela Hermann, des chevelures de la région. « Nous n'avons jamais entendu parler d'histoire de ce genre, » dit-il d'une voix mélodieuse. « Aucun habitant du village n'a jamais disparu, pour autant que je m'en souvienne. « Nous ne sommes pas du village, » murmura Hermann. « Nous habitons Paris, du mois de septembre au mois de juin. Par ailleurs, notre maison est en pleine campagne, à quelques 800 mètres du village, proprement dit. « Ah, c'est intéressant !» Le jeune homme hocha la tête, le coin de ses lèvres s'étira mécaniquement en un sourire bienséant et formel. Hermann comprit tout d'un coup, au sourire, à la nonchalance de l'autre, à sa préciosité presque galante, qu'il n'avait pas la moindre intention de travailler, ce soir tout au moins, à son affaire, ne fût-ce qu'en enregistrant ce qu'Hermann lui décrivait, et que même, peut-être, le ton artificiel et léger qu'il employait n'avait d'autre but que de le lui faire entendre sans grossièreté. À le voir ainsi tellement peu disposé à s'inquiéter de son cas, Hermann en vint à douter que ce pût être très différent le lendemain matin. « Le sort de nous autres Parisiens le laisse indifférent, songea-t-il. Ce qu'il peut nous arriver ne le concerne pas. » « L'été fini, passé le 31 août, vous ne voulez plus rien avoir à faire avec nous, n'est-ce pas ? Si nous nous entêtons à attendre l'automne, c'est à nos risques et périls. Nous restons livrés à nous-mêmes, et nulle autorité ne nous protège plus. Nous perdons, à vos yeux, toute existence légale. Est-ce bien cela ? Le gendarme se récria, offensé. Il protesta que les étrangers, à tout moment de l'année, pouvaient trouver aide et protection auprès des forces de l'ordre locales, et qu'il ne dépendait d'ailleurs pas d'eux, gendarmes, ni même du maire, des conseillers ou du préfet, de décider qu'il en allait autrement. Mais avez-vous des étrangers l'automne? En apercevez-vous à une autre saison que le plein été?
Demanda Herman, un peu nerveux et moins aimable qu'il eût souhaité le paraître.
À vrai dire, jamais.
Et le jeune homme ajouta complaisamment qu'Herman était le premier Parisien qu'il voyait sous la pluie d'automne, et dans ce froid mordant, qui ne manquait jamais de tomber ici dès le 1er septembre, pour ne s'en aller qu'aux environs du 15 juin. Il ne précisa pas s'il lui semblait de bon augure qu'un vacancier, pour la première fois, eût franchi la frontière de l'été, si cette nouveauté lui était agréable ou lui déplaisait fortement, à lui villageois. Herman était douloureusement curieux de le savoir. Il croisa les bras et afficha un air désinvolte. « Y a-t-il le moindre danger, pour moi, à demeurer plus longtemps ici? Est-ce que je risque de m'attirer l'inimitié des gens ?»«
Non, non, bien sûr que non. »
Le jeune homme accentua son sourire, fit des gestes apaisants des deux mains, affirma que tout le monde serait heureux ici d'avoir l'occasion de déployer son hospitalité qui était, chez beaucoup, une véritable manie.
« Du reste, vous rentrerez sans doute dès que vous aurez retrouvé votre famille, n'est-ce pas »
conclut-il avec une sorte d'obséquiosité, comme si, tout d'un coup, parut-il à Herman, les rênes tenues serrées de la courtoisie parfaite, codifiée, lui échappaient légèrement.
« Comment les retrouverai-je sans votre secours ? Vous n'avez même pas transcrit la description que je vous ai donnée d'eux !» s'écria Herman.
« Revenez demain. » « Ce soir, il n'est plus temps, vous ai-je dit. Officiellement, moi, j'ai quitté mon service il y a une heure. J'ai éteint la lumière, et d'habitude, personne ne s'avise d'entrer dans un bâtiment obscur. » Ayant dit, le gendarme s'inclina, son regard fixé sur les chaussures d'Herman. Celui-ci soupira, puis se tourna vers le poêle pour se chauffer un peu le ventre. Il ne pouvait se résoudre à retourner chez lui, sous la pluie, à plus d'un kilomètre maintenant, pour errer dans la maison silencieuse, qu'il ne connaissait pas sous un tel ciel, et se tourmenter. Il salua le jeune homme et sortit.
« Mon Dieu, que faire ? » gémit-il une fois dehors.
Avait-il jamais connu pareille détresse ? Il se sentait bien faible, bien peu préparé à tenir tête à semblable situation. Pour éviter de repasser devant les boutiques, il décida de prendre par la ruette, un chemin qui, contournant le village, montait directement au plateau où étaient sa maison et celle des nombreux autres Parisiens, maintenant fermés pour l'année. Il pleuvait toujours. Avec la nuit, le froid s'accentuait. Herman avançait tant bien que mal dans l'obscurité, répétant « mon Dieu » d'une voix grelottante. Et il songea pour la première fois qu'il eût été bon ce soir-là d'avoir sa maison au village, serrée contre ses voisines, de rentrer par une rue éclairée où peut-être il eût rencontré quelque connaissance auprès de qui il se serait épanché. Il avait d'ailleurs le sentiment, influencé sans doute par les propos du gendarme, que Rose et l'enfant n'auraient pu se volatiliser de cette façon, sortis d'une de ces maisons si bien collées les unes aux autres, qu'on ne devait rien ignorer dans chacune de ce qui se passait à côté, de droite et de gauche. Et si, au lieu d'aller chercher les œufs par le chemin peu fréquenté, creusé comme une tranchée entre les champs bordés de hautes haies de mûriers qui menaient à la ferme, il s'était rendu tout près, à la crèmerie du village où se vendaient les œufs de cette même ferme. Aucun villageois n'avait jamais disparu, avait affirmé le gendarme, ce que croyait Herman avec conviction. Mais il était tout autant persuadé qu'une mésaventure de ce genre n'avait jamais frappé un étranger au cœur de l'été. Et comme il semblait être Rose et lui les premiers à pénétrer dans l'automne, il faisait aussi les premiers les frais d'une expérience unique.
« Si épreuve il y a, il ne faut pas se dérober à l'épreuve, » marmottait Herman, tremblant et terrifié. « Mais pourrons-nous partir demain ?»«
Ah, mon Dieu, mon Dieu !»
La rentrée des classes avait lieu dans 5 jours. Il ne voulait pas douter qu'ils seraient tous 3 à Paris bien avant. Et cependant, il craignait déjà les désordres causés dans son esprit pondéré par cette rencontre de l'arrière-saison au village, au pays, qu'il ne considérait plus, à marcher ainsi courbé, gelé et trébuchant dans la ruette, comme un privilège.
« Maudit automne, » murmurait-il. « Maudite campagne. 2 semaines de plus ici, j'en crèverai. Mais il ne sera pas dit que nous nous serons dérobés à l'épreuve, pas même le petit. » Il eut quelques difficultés à repérer la maison dans le brouillard, car elle n'était pas éclairée, comme pendant les nuits d'été, par les lampadaires de jardin qui brûlaient du soir au matin dans les propriétés voisines. Les pièces étaient glaciales et dépourvues de tout système de chauffage. Depuis 10 ans qu'il venait dans la région, Hermann et Rose n'avaient jamais connu, jusqu'au 31 août, que la chaleur constante. Et seule la vue des pâturages d'un vert aveuglant et comme factice leur avait fait soupçonner qu'il ne devait pas en être ainsi tout au long de l'année, mais sans qu'ils eussent songé à vérifier, en demandant, leur paresseuse hypothèse. Hermann alluma les 4 brûleurs de la cuisinière, traîna un matelas dans la cuisine. L'inconfort et le froid achevèrent de le désespérer. Il ne pouvait mieux faire, selon lui, que de tenter de dormir, pour se lever tôt le lendemain et se lancer dans une recherche active. Il songeait avec regret, « On ne peut pas être plus démuni que je ne le suis. Dans la ruette, j'ai claqué les dents d'effroi, et j'ai tremblé pour ma peau, oubliant les miens. Jamais je ne trouverai le courage, cette nuit, d'aller explorer attentivement le chemin, les haies. Non, dès demain, il me faut l'aide de la gendarmerie. »